au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir monsieur Nicolas Pécourt, qui est donc directeur de la prospective et de la communication d'une grande société financière nationale, européenne, voire internationale, et qui vient de faire paraître chez Erol, édition d'organisation, Un monde sans crédit, avec un point d'interrogation, dans la collection Le capitalisme en mouvement, qui est dirigée par Nicolas Bouzou, que notre antenne a déjà reçu à plusieurs reprises et qui a été notamment prix spécial du jury du prix Turgot du meilleur livre d'économie financière en 2007. Monsieur Pécourt, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir sur notre antenne.
Merci à vous de
Alors,
me recevoir.
Vous êtes banquier et de surcroît dans le domaine du crédit à la consommation et vous avez pris le risque de passer pour un hérétique en publiant cet ouvrage. Mais vous avez eu la précaution, tous les banquiers sont très précautionneux, d'y mettre un point d'interrogation. Donc vous êtes à demi pardonné, j'estime, par votre profession. En réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vous êtes un grand professionnel du crédit et vous abordez donc ce sujet sous tous ses aspects économiques et sociaux parce que effectivement le crédit à la consommation a cette double vertu. Alors, en plus, votre ouvrage arrive à point nommé puisqu'il se situe dans le sillage de la parution ou de la promulgation de la loi qui a été pilotée par Christine Lagarde précisément sur le sujet. On attend les décrets d'application et on va revenir sur un certain nombre de points clés et de compréhension sur le sujet. Alors, vous faites un examen sans concession et vous balayez les idées reçues. Donc, on va regarder ces différents aspects. Première question, le crédit à la consommation est un mal aimé. Pourquoi ?
Alors, c'est une vaste question. Tout à l'heure, vous évoquiez que je prenais un risque. Effectivement, quand on est professionnel, c'est ce qu'on appelle le syndrome du dîner en ville. Le dîner en ville, c'est lorsque vous êtes invité, vous retrouvez face à des convives que vous n'avez jusqu'alors jamais rencontrés et qui vous posent la question fatale, « Monsieur, que faites-vous ? » Et là, vous répondez du crédit à la consommation. Et à partir de là, vous êtes désormais habitué à répondre à un certain nombre de questions ou autres stéréotypes liés au crédit. Donc, c'est pour ça qu'il m'avait paru important d'écrire, à la demande donc, de Nicolas Bouzou, vous l'aviez souligné, ce livre sur le crédit à la consommation. Je m'y suis efforcé de le faire au moins pour, avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est de démontrer l'utilité économique et sociale du crédit à la consommation. On y reviendra. Et puis, de tordre le cou à un certain nombre de paradoxes français, parce qu'il y a bien un paradoxe français en matière de crédit à la consommation. Un seul que je cite dans l'introduction de ce livre, dès lors que vous parlez de crédit immobilier, de crédit aux entreprises, il est bon d'encourager ce crédit, et c'est d'ailleurs une bonne chose. Les préfets n'ont-ils pas été missionnés, d'ailleurs, fin 2008, pour surveiller les banquiers afin qu'ils distribuent du crédit destiné à soutenir les entreprises et donc la croissance. Alors, ce qui est vrai pour le crédit aux entreprises l'est également pour le crédit immobilier. On va jusqu'à prêter des défiscalisations sur les intérêts d'un crédit immobilier. Et puis, par contre, lorsqu'il s'agit du crédit à la consommation, qui représente, je suppose qu'on y reviendra, un peu plus de 7% du PIB, alors là, la posture n'est plus la même.
Alors, c'est ça. Donc, d'une part, il a donc un impact extrêmement fort au plan de l'économie, mais il est aussi légitime. Et même si on jette souvent sur lui l'anathème, je regarde dans votre ouvrage à la page 67, vous parlez de la légitimité du crédit à la consommation selon le bien financier. Et pour les Français interrogés, il est normal de souscrire un crédit à la consommation pour acheter une voiture 88%, réaliser des travaux dans la maison 82%, financer des études des enfants 58%, acheter des meubles et des équipements électroménagers 55%, etc. Ce qui veut dire que, contrairement justement à ces rumeurs et ces dîners en ville, le crédit à la consommation est finalement perçu comme quelque chose de très utile.
Alors, le crédit à la consommation, effectivement, a face à lui cette image un petit peu ambivalente. C'est-à-dire, il est vrai, la profession, le métier du crédit à la consommation fait face à une image globalement négative. On lui associe des notions de crédit usuraire, on y reviendra peut-être, mais la France est pourtant un des pays où les taux pratiqués sont parmi les moins chers. On lui associe des notions de facilité d'octroi, ce qui est loin d'être le cas. Et puis, ça, c'est l'image au global. Et puis, de façon individuelle, chaque particulier, en France, hein, on a 2 ménages sur 3 qui ont ou ont déjà eu recours au crédit à la consommation.
Donc, contrairement à une idée reçue, là encore, ce n'est pas le crédit à la consommation, ce n'est pas le crédit des pauvres.
Alors, le crédit à la consommation, ce n'est ni le crédit des pauvres. D'ailleurs, quand on regarde, on fait des analyses par tranche de revenus, on s'aperçoit que le crédit à la consommation est essentiellement dévolu à ce que l'on appelle les classes moyennes. Mais d'ailleurs, on retrouve également parmi les plus fortunés des gens qui ont recours au crédit à la consommation. Alors, c'est pour d'autres raisons. Ça peut être pour des notions d'arbitrage entre épargne et crédit. Mais le crédit à la consommation, statistiquement, n'est pas le crédit des pauvres. Et puis, ce n'est pas non plus le crédit des cigales, un crédit qui serait réservé à quelques personnes prévoyantes et à des dépenses futiles. Non, le crédit à la consommation, c'est un crédit qui sert à 2 ménages sur 3 en France et qui sert pour 2/3 soit à l'acquisition d'une automobile ou soit à l'équipement de la maison ou l'amélioration de celui-ci.
Oui, alors peut-être qu'avant d'aller un peu plus dans le détail de votre ouvrage, vous pouvez peut-être nous rappeler quelques points sur le marché du crédit à la consommation. Autrement dit, quels sont les grands leaders et on va dire les canaux principaux de distribution du crédit à la consommation.
Alors, le crédit à la consommation, c'est un peu plus de 140 milliards d'euros d'encours. Pour vous donner un ordre d'idée, le crédit à la consommation, c'est 17% des encours qui sont octroyés aux particuliers en France. Donc ça, c'est le volume. Aujourd'hui, le crédit à la consommation, c'est une activité qui est ancienne. Les premières sociétés de crédit à la consommation ont été créées en France par les constructeurs automobiles en l'entre-deux-guerres, puis ensuite, ça a été le cas de Sofinco, par les professionnels de l'équipement de la maison. Aujourd'hui, quels sont les acteurs principaux? Ce sont des grands groupes. Alors, le groupe que je représente, le Crédit Agricole, est le leader européen de cette activité, puisque nous sommes présents.
À travers ces différentes filiales.
Alors, nous sommes présents en France. La France ne représente qu'un tiers de notre activité. Nous sommes également présents dans 22 pays. Nous avons ouvert début juillet une nouvelle filiale en Chine. Voilà, donc avec un développement également hors d'Europe. Et donc, le crédit à la consommation est aujourd'hui distribué en France pour moitié par des réseaux bancaires. C'est vrai du Crédit Agricole, de LCL. Ou pour autre moitié par des sociétés spécialisées que vous connaissez sous les termes de Sofinco, Finaref, Yaxel et d'autres. Et ce crédit spécialisé étant souscrit soit sur les canaux de vente directe de ces sociétés, alors ça peut être le cas par Internet. Par exemple, pour ce qui nous concerne, plus d'une demande sur deux de prêts personnels nous provient non pas de nos réseaux d'agences, pourtant on dispose d'un réseau dans les principales agglomérations, mais d'Internet. Et c'est soit la vente directe...
C'est 50% aujourd'hui.
Oui, plus de 50%, ce qui est extrêmement important. Et puis après, c'est évidemment le crédit sur le lieu de vente. C'est les sociétés...
Lorsque vous dites « et puis après », ça veut dire que c'est dans les 50% ou d'Internet ou
Non. Alors, on va fonctionner effectivement par moitié. C'est moitié banque, moitié société spécialisée. D'accord. Dans les sociétés spécialisées, vous avez une part en vente directe, dont Internet, et dont la moitié, c'est Internet. Et puis après, vous avez ce qu'on peut qualifier de canal historique et le lieu de vente. Lorsque vous faites l'acquisition d'un véhicule, d'un canapé, que vous allez décider de réaliser des travaux d'équipement de la maison, pour ce faire, l'artisan, le distributeur, le vendeur qui vous le propose de faire un crédit qui l'accompagne.
Donc aujourd'hui, le crédit à la consommation, ce n'est pas un concurrent direct du métier de banquier, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité du métier de banquier et qui généralement est intégré aux grands groupes.
Alors aujourd'hui, effectivement, l'essentiel, alors ce n'est pas le cas de tous, mais en tout cas, une grande partie des sociétés spécialisées sont des filiales des grands groupes bancaires. Alors c'est vrai, je voulais citer Sofinco Finaref pour le Crédit Agricole, c'est vrai, citons le CTLM filiale de BNP Paribas. Oui. Et puis à côté de ces grandes sociétés adossées à des grands groupes bancaires, on trouve ensuite des filiales, elles, des sociétés adossées à des distributeurs. Je pense par exemple à la DIAC, filiale de Renault, un des opérateurs
et
historiques.
Les grands magasins ont leur propre...
Alors, les grands magasins également ont leurs propres sociétés qui, généralement, sont en joint venture entre le distributeur d'un côté et puis une société spécialisée qui vient apporter son expertise en matière de risque, d'octroi, de marketing, etc.
D'accord. Voilà pour les grands chiffres sur le marché. On en vient maintenant à un point d'évolution très sensible du crédit à la consommation, son encadrement à travers la nouvelle loi qui vient d'être promulguée. Et là, manifestement, une des cibles de cette loi, si j'ai bien compris, c'était le procès qu'on fait traditionnellement au crédit à la consommation, c'est-à-dire de victimiser en quelque sorte le consommateur et de pousser au surendettement. Alors, Qu'en est-il ? Alors, il y a aussi quelques innovations, mais commençons par ce point très sensible. Celui-là, on ne peut pas l'éviter. Donc, on a vu que le crédit à la consommation avait une utilité économique et sociale manifeste, qu'il répondait à un besoin et des attentes des consommateurs. Et qu'en cela, c'était donc quelque chose de très vertueux. Mais par contre, il traîne toujours ce boulet d'être le méchant, le grand loup, je crois que c'est comme ça que vous dites dans votre livre, par rapport aux consommateurs qui ne seraient pas suffisamment avisés, suffisamment avertis. Alors, qu'en est-il ?
Alors, qu'en est-il ? Trois éléments de réponse. Premier élément de réponse, le crédit à la consommation est un secteur éminemment réglementé. Ce que je dis dans mon livre, la loi Lagarde fait suite à 12 lois en 20 ans. C'est une loi tous les 20 mois. Je connais assez peu de secteurs finalement qui font l'objet de tant de sollicitudes de la part du législateur. Et le crédit à la consommation est assurément un secteur extrêmement réglementé. Il suffit pour s'en convaincre de prendre un contrat de crédit. Deuxième élément de réponse, effectivement, vous avez raison, on nous fait le procès suivant qui est celui de dire finalement l'octroi des crédits aux particuliers serait une chose facile, voire facilitée par les établissements de crédit, et puis après peu importe le risque. Alors à cette affirmation, moi je réponds à la chose suivante, c'est que l'intérêt à la fois premier et économique des établissements de crédit, c'est de prêter à des particuliers qui pourront ensuite, bien évidemment, rembourser et honorer leurs échéances. Donc, il est faux, et je souhaite effectivement vous me donner l'occasion de tordre le cou à cette idée reçue, mais l'intérêt premier des établissements financiers, c'est évidemment d'être extrêmement regardant sur les conditions de crédit, tant et si bien qu'en France, et ce sont des chiffres qui datent de 2007, donc c'était avant la crise, et probablement ces ratios sont plus élevés désormais après la crise, on était à un refus sur trois en moyenne pour le crédit à la consommation, et pour le seul crédit renouvelable, parfois aussi décrié, on était à des taux de refus de 1 sur 2. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Il y a un taux de refus qui est particulièrement important et qui l'est notamment en France. Alors, dernier élément de réponse.
On a un pouvoir de dire oui, mais un pouvoir de dire non aussi.
On a un pouvoir de dire non et un pouvoir de dire non que l'on exerce dans l'intérêt du particulier, parce que s'il n'est pas en mesure, et nous jugeons qu'il n'est pas en mesure de rembourser par la suite son crédit, c'est son intérêt qu'on lui dise non, mais également dans l'intérêt financier de l'établissement de crédit. Et puis le dernier élément sur lequel vous m'interrogez, c'est le surendettement. Assurément, le surendettement, c'est un sujet délicat, particulièrement difficile à traiter. C'était des situations effectivement douloureuses pour les ménages qui sont confrontés. Néanmoins, il faut regarder la réalité du surendettement telle qu'elle est. Si je prends les chiffres de la Banque de France qui sont publiés sur la base des commissions de surendettement animées par la Banque de France, aujourd'hui, l'excès de crédit représente 13% des cas de surendettement. Autrement dit, dans 6 cas sur 7, ce n'est pas l'excès de crédit qui est la cause originale du surendettement, mais plus ce que l'on appelle des accidents de la vie. Ça peut être une diminution de revenus provoquée par un licenciement ou à l'inverse une augmentation de charges par un divorce. C'est les deux raisons de cause principale du surendettement qui expliquent effectivement ce drame qu'est le surendettement.
Donc effectivement, c'est la partie qui n'est pas compressible du risque, c'est-à-dire celle qu'on ne connaît pas à l'entrée et qui provient ensuite dans la vie du crédit. Divorce, comme vous le dites, accident de la vie, chômage, etc., maladie. Par contre, il y a une grande question. La loi et la commission Lagarde l'abordent, c'est de savoir si les outils qui sont à la disposition des banquiers, donc du dispensateur de crédit, sont performants. Et notamment le fameux fichier FICP. Alors, la grande question, donc vous allez nous dire ce que c'est que ce fichier et en quoi il respecte les personnes, tout en essayant de fournir des renseignements aux banquiers. Mais se pose la grande question du fichier positif. Alors, commençons par le premier point, et ensuite on viendra à ce douloureux point, puisque j'imagine que la position des sociétés de crédit n'est pas tout à fait la même que celle des grands banquiers et des grands réseaux.
Alors, deux questions. Ce qu'on appelle dans notre jargon le fichier négatif, donc le FICP, et le fichier positif, sur lequel effectivement le législateur va débattre. Alors, s'agissant du fichier négatif, pourquoi est-il qualifié de négatif ? C'est un fichier en fait qui recense les incidents de paiement. Alors, quand on entend parler d'incidents de paiement, ce sont des choses qui sont extrêmement normalisées, inscrites dans les textes, et avec l'obligation pour les sociétés financières, dès lors qu'un particulier, au-delà d'un certain délai et après deux impayés consécutifs, donc ce particulier est fiché dans ce fichier FICP. C'est un fichier qui comporte également les personnes en procédure de surendettement. Alors, qu'est-ce qu'instaure la loi Lagarde ? La loi Lagarde instaure l'obligation, mais ce n'est, j'ai envie de vous dire, c'est l'officialisation d'une pratique qui, en tout cas, qui pour nous concerne, se fait depuis plusieurs années. sur l'obligation de consultation de ce fichier, de façon à ce que lorsqu'un particulier est fiché à ce fichier FICP, donc fichier négatif.
Mais ça veut dire quoi FICP ? Je n'ai plus le souvenir.
Alors, le fichier.
Enfin, non, c'est pas grave, hein, donc, je n'ai pas besoin de vivre avec ça. Oui.
Mais donc voilà, donc le fichier, donc on a d'un côté un fichier négatif, donc il recense des impayés de paiement dits caractérisés, hein, donc ce n'est pas au premier impayé. Et donc cette information négative est connue de la communauté des établissements financiers de manière à les inciter à ne pas reprêter à des particuliers lorsqu'ils solliciteraient de nouveaux crédits. Après, vous avez soulevé la question du fichier positif cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fichier positif ? Et je m'en tiendrai à la définition. C'est un fichier qui recense l'ensemble des crédits de particuliers. Alors, c'est les crédits à la consommation, mais c'est évidemment le crédit immobilier aussi. Et donc, ces informations étant portées sur ce fichier positif, lequel est consultable par les organismes de crédit de façon à mesurer la solvabilité du client lorsque le client fait une demande d'un nouveau crédit. Et donc, effectivement, la loi Lagarde prévoit dans son texte ce qui s'appelle un comité de préfiguration du fichier positif. Donc, il y a un comité qui réunit 16 à 17 personnalités du monde financier, spécialisées de la distribution, évidemment, associations de consommateurs également, et qui vont pendant une année étudier ce sujet et définir les modalités de ce fichier positif.
Oui. Alors, très bien, parce qu'en fait, on comprend que vous en faites état dans votre ouvrage que quelquefois, il y a aussi d'autres accidents dans la distribution du crédit. On découvre que des personnes sont passées à travers les mailles du filet et se retrouvent avec des niveaux d'encours qui sont absolument surréalistes. Et les commissions de surendettement considèrent ça comme étant un manquement dans le métier de la distribution du crédit. Et c'est souvent par méconnaissance, justement, de la situation réelle du client et du demandeur et de l'emprunteur. Alors, d'ailleurs, on se demande pourquoi on n'a pas été vers le fichier positif plus rapidement. Alors, dans le pourquoi, il y a certainement des éléments stratégiques qui déchirent un certain nombre d'acteurs, car sinon, ce fichier serait sorti depuis longtemps. Alors, je ne sais pas quelle est votre position, vous.
Alors, ma position, c'est qu'il y a un comité...
Enfin, position, on va dire, vue du côté société financière, pas votre position personnelle. Mais vous pouvez donner votre position personnelle aussi.
Non, la position aujourd'hui, la profession, c'est qu'il y a un chantier qui s'ouvre et ce sera mon joker de l'émission. Mais je laisse le soin aux représentants de la profession financière, justement, d'ouvrir ce débat avec les associations de consommateurs, les distributeurs, pour élaborer ce que serait ce fichier. Ce qu'il est important en France d'avoir à l'esprit, c'est que les accidents de la vie que vous évoquez, donc générateurs de derrière d'impayés, voire de situations de surendettement, sont souvent plus le fait d'événements survenant après la souscription qu'avant ou pendant. Je veux dire par là qu'il y a aussi nécessité, je crois, et c'est quelque chose que poursuit également le gouvernement, d'améliorer le fichier négatif tel qu'il est, de façon à pouvoir donner des informations aux établissements financiers en temps réel, et là aussi de façon à ce que lorsqu'une situation financière se dégrade au niveau d'un établissement financier, pouvoir le faire savoir à l'ensemble de la profession.
Bon, donc ça veut dire qu'il faudra que nous fassions une autre émission quand les conclusions de la commission seront connues, mais enfin, on voit bien les enjeux. Premier, c'est, on va dire, lié aux personnes, c'est-à-dire à la connaissance et au secret lié à, comment dirais-je, à chaque personne. Donc, effectivement, plus on met des fichiers, plus ceci est risqué. La seconde, c'est les rapports de force entre établissements, entre ceux qui pourraient utiliser les fichiers comme un instrument marketing et commercial, et ceux qui ont les plus grosses parts de marché, qui voient d'un mauvais œil de donner la connaissance à l'ensemble des autres acteurs, leurs propres encours. Et ceci est bien compréhensible. Donc, il y a derrière des intérêts sociaux, aussi des intérêts économiques et financiers, mais c'est un peu toujours le cas dans ces dossiers sensibles, et on s'en remet à la sagesse de la Commission. Donc, nous y reviendrons. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, que vous abordez dans votre chapitre 5, c'est en fait comment a évolué la distribution du crédit à la consommation dans la crise, parce que ça, c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Alors, comment elle a évolué en termes de distribution, c'est-à-dire en termes de volume, et comment elle a évolué en termes de risque, en quelque sorte?
Alors,
globalement, là aussi.
Globalement. C'est pas, ouais. Alors, le crédit à la consommation, pour faire court, en 2009, le volume de crédit à la consommation en France a baissé de moins de 13%.
Ah oui.
Donc, une baisse significative. À dire d'experts, c'est une baisse d'une ampleur qui n'a été jusqu'ici jamais connue.
Mais historique.
Historique. On est revenu en euro constant en 2009 au même niveau qu'en 2001. Moins 13%, je vous disais tout à l'heure que le crédit à consommation représentait un peu plus de 7% du PIB. Moins 13%, c'est l'équivalent d'une perte de 1 point de PIB. Alors, il y a une chose assez remarquable qu'il faut souligner, c'est qu'on observe que les ménages français continuent à consommer en nombre. Et en cela, l'automobile est un bon exemple. Par contre, ils consomment avec des paniers d'achat qui, eux, sont significativement moins élevés. Un chiffre, je prenais toujours l'automobile, le financement moyen en automobile a baissé en un an de 16%.
Ah oui.
Donc les Français continuent à s'équiper en biens d'équipement de la maison, en automobile. Par contre, ils le font sur des montants significativement inférieurs et donc qui provoquent cette baisse du crédit à consommation.
Donc ça veut dire qu'ils tapent plus dans leur épargne.
Alors,
A priori, à
niveau d'apport identique, comme le prix d'achat du bien baisse significativement, du coup, la répercussion sur la partie financée est encore plus importante. Alors, il y a cet aspect-là. Et puis après, j'aime bien rappeler l'étymologie du mot crédit, croire, faire confiance. Donc, quelque part, pour moi, la souscription à un crédit, c'est également l'expression de la confiance qu'ont les ménages dans leur avenir et dans leur avenir financier en l'espèce. Et il n'est pas non plus étonnant que pendant une période de crise, les ménages soient plus réticents à souscrire à un crédit, quel qu'il soit d'ailleurs, étant plus inquiets par définition de la situation financière qui sera la leur dans les années à venir.
Très bien. Et au niveau du risque
Le risque a augmenté bien évidemment de façon significative.
Aussi.
Aussi. Malheureusement, et on le sait, le chômage a augmenté de façon forte pendant cette crise. Et donc une des conséquences, c'est qu'un nombre de ménages importants se retrouvent dans la difficulté financière et donc dans des difficultés pour rembourser les prêts qu'ils avaient souscrits précédemment.
Alors vous pointez du doigt aussi dans votre ouvrage ce phénomène de transfert de la dette publique vers la dette privée, alors qui plutôt donc est un élément qui devrait soutenir la demande. Ça. Alors c'est quoi ce phénomène de transfert ?
Alors ce chapitre effectivement est consacré aux perspectives du secteur et je vois dans les perspectives du crédit à la consommation effectivement l'effet d'une dette publique dont on connaît aujourd'hui à la fois le volume et puis les limites, qui conduiront vraisemblablement, enfin qui ont déjà commencé à conduire les pouvoirs publics à transférer une partie de certaines dépenses, je pense à la santé pour des pathologies les moins graves ou pour des frais d'éducation vers les particuliers. Et on le voit d'ailleurs, la structure du budget des ménages change d'année en année et en particulier ces deux composantes prennent une part de plus en plus significative. Et le crédit sera également un des moyens de répondre à ces nouvelles dépenses auxquelles auront face les ménages.
Alors toujours dans les perspectives, là on percute encore à nouveau le projet de loi, et il y a donc une place pour le microcrédit. Alors le microcrédit, on voit bien ce que c'était, on peut le rappeler brièvement au niveau, on va dire, international, c'est-à-dire autrement dit, c'était permettre à des pays, à des acteurs dans des pays qui sont loin d'être développés, de pouvoir faire des petits crédits, notamment chez les femmes d'ailleurs, de façon à créer un mini-commerce, une mini-activité, etc. Donc autrement dit, des niveaux et des natures de crédit non traditionnels. Par contre, parler de microcrédit dans les pays développés et notamment en France, ça peut surprendre celui qui le découvre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, ce que j'ai souhaité d'abord, c'était de faire un exercice de définition. Effectivement, parfois, certains confondent le crédit à la consommation et le microcrédit. Enfin, j'ai souhaité montrer que ce sont deux produits différents. D'un côté, le crédit à la consommation, c'est un produit qu'on le qualifiera de masse au sens où c'est un crédit qui est distribué auprès de millions de particuliers. De l'autre, le microcrédit. Alors déjà, il faut distinguer, s'agissant des pays développés, le microcrédit à vocation professionnel, lorsqu'il s'agit par exemple d'aider une personne qui va créer une petite entreprise.
Oui, un petit commerce.
Ouais. Et puis, ce que l'on qualifie de microcrédit personnel, qui vise à aider des ménages ou une personne en difficulté. Et par exemple, à l'occasion d'un emploi qu'une personne aurait retrouvé, mais qui nécessite un niveau de mobilité, lui permettre par ce microcrédit personnel d'acquérir...
Et donc avec des règles, on va dire, d'approche, des logiques d'ailleurs qui sont un petit peu en rupture.
Alors avec des règles d'approche qui sont complètement différentes de la distribution du crédit à la consommation, dans la mesure où, un, ce sont des crédits consentis certes par un établissement financier, mais avec la participation et le concours fort d'associations caritatives, de services communaux, donc qui jouent un rôle d'accompagnement extrêmement important auprès de ces ménages. Ça, c'est un des premiers aspects. Ça peut être des actions menées, par exemple, par le Secours catholique ou d'autres associations. Et puis, un deuxième aspect qui est important également, c'est que les fonds qui sont alloués pour ce microcrédit personnel sont garantis pour moitié par la Caisse des dépôts. Et donc, avec avec un niveau de risque qui, bien évidemment, de ce fait, n'est pas le même.
Et partagé. Bien, eh bien, écoutez, nous avons fait un grand tour de votre ouvrage qui est extrêmement pédagogique et formateur et qui est accessible à la fois, on va dire, par le grand public et des gens un peu plus, des étudiants qui sont peut-être un peu plus axés sur ce type de réflexion. C'est un ouvrage donc, qui est paru chez Erol dans la collection Le capitalisme en mouvement, 115 pages, 14 euros. Et c'était donc la vision de Nicolas Pécourt sur le crédit à la consommation, un monde sans crédit, avec un point d'interrogation, qui est donc une vision d'apocalypse que finalement, au détour de son ouvrage, on s'aperçoit que, bien au contraire, on va plutôt vers des perspectives, après avoir traversé la crise, qui sont beaucoup plus reluisantes, avec des axes de développement du crédit pour demain. En tout cas, merci pour cet entretien. Je rappelle que Nicolas Pécourt est directeur de la prospective et de la communication dans le groupe Crédit Agricole, d'une grande société financière.
Crédit Agricole Consumer Finance.
C'est ça. Et qui est donc diplômé de l'ESSEC. Et vous intervenez très souvent dans des émissions sur ce sujet. Et vous êtes l'auteur de plusieurs articles et études sur le crédit. En tout cas, on vous accueillera avec grand plaisir pour une prochaine émission. Et notamment pour parler de ce fameux fichier positif. Merci à vous.
Merci de m'avoir reçu.
À très bientôt.